Il était 10h30. Il y avait un train à 11h50. Lentement, il suivit l'allée du parc et s'engagea sur le chemin qui le menait à la gare. « Eh bien, qu'en dis-tu de celle-là » C'était Massiban, ou plutôt Lupin, qui surgissait du bois contigu à la route. « Est-ce bien combiné ? Est-ce que ton vieux camarade sait danser sur la corde raide ? Je suis sûr que tu n'en reviens pas, hein ? Et que tu te demandes si le nommé Massiban, membre de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres, a jamais existé. Mais oui, il existe. On te le fera voir, même, si t'es sage. Mais d'abord, que je te rende ton revolver. Tu regardes s'il est chargé. Parfaitement, mon petit. 5 balles qui restent, dont une seule suffirait à m'envoyer ad patres. Eh bien, tu le mets dans ta poche. À la bonne heure. J'aime mieux ça que ce que tu as fait là-bas. Vilain, ton petit geste. Mais quoi ? On est jeune, on s'aperçoit tout à coup, un éclair, qu'on a été roulé une fois de plus par ce sacré Lupin, et qu'il est là, devant vous, à 3 pas. Fouf ! On tire. Je ne t'en veux pas, va. La preuve, c'est que je t'invite à prendre place dans ma 100 chevaux. Ça colle ? Il mit ses doigts dans sa bouche et siffla. Le contraste était délicieux entre l'apparence vénérable du vieux Massiban et la gaminerie de gestes et d'accents que Lupin affectait. Beautrelet ne put s'empêcher de rire. « Il a ri ! Il a ri !» s'écria Lupin en sautant de joie. « Vois-tu, ce qui te manque, bébé, c'est le sourire. Tu es un peu grave pour ton âge. Tu es très sympathique. Tu as un grand charme de naïveté et de simplicité. Mais vrai, t'as pas le sourire. » Il se planta devant lui. « Tiens, je parie que je vais te faire pleurer. Sais-tu comment j'ai suivi ton enquête ? Comment j'ai connu la lettre que Massiban t'a écrite et le rendez-vous qu'il avait pris pour ce matin au château de Véline ? Par les bavardages de ton ami, celui chez qui tu habites. Tu te confies à cet imbécile-là. Il n'a rien de plus pressé que de tout confier à sa petite amie. Et sa petite amie n'a pas de secret pour Lupin. Qu'est-ce que je te disais ? Te voilà tout chose. Tes yeux se mouillent. L'amitié trahie, hein ? Ça te chagrine. Tiens, tu es délicieux, mon petit. Pour un rien, je t'embrasserai. Tu as toujours des regards étonnés qui me vont droit au cœur. Je me rappellerai toujours l'autre soir, à Gaillon, quand tu m'as consulté.
Eh oui ! C'était moi, le vieux notaire.
Mais ris donc, gosse. Vrai, je te le répète, t'as pas le sourire. Tiens, tu manques, comment dirais-je, tu manques de primeau. Moi, j'ai le primeau. On entendait le halètement d'un moteur tout proche. Lupin saisit brusquement le bras de Beautrelet et d'un ton froid, les yeux dans les yeux. Tu vas te tenir tranquille maintenant. « Hein ? Tu vois bien qu'il n'y a rien à faire. Alors à quoi bon user tes forces et perdre ton temps ? Il y a assez de bandits dans le monde. Cours après et lâche-moi. Sinon, c'est convenu, n'est-ce pas ?» Il le secouait pour lui imposer sa volonté. Puis il ricana. « Imbécile que je suis !» Toi, me ficher la paix, t'es pas de ceux qui flanchent. Ah, je ne sais pas ce qui me retient. En 2 temps et 3 mouvements, tu serais ficelé, bâillonné, et dans 2 heures à l'ombre pour quelques mois. Et je pourrais me tourner les pouces en toute sécurité, me retirer dans la paisible retraite que m'ont préparée mes aïeux, les rois de France, et jouir des trésors qu'ils ont eu la gentillesse d'accumuler pour moi. Mais non, il est dit que je ferai la gaffe jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu veux ? On a ses faiblesses, mais j'en ai une pour toi. Et puis quoi ? C'est pas encore fait. D'ici à ce que tu aies mis le doigt dans le creux de l'aiguille, il passera de l'eau sous le pont. Que diable ! Il m'a fallu 10 jours, à moi, Lupin. Il te faudra bien 10 ans. Il y a de l'espace tout de même entre nous deux. L'automobile arrivait. Une immense voiture à carrosserie fermée. Il ouvrit la portière. Beautrelet poussa un cri. Dans la limousine, il y avait un homme. Et cet homme, c'était Lupin, ou plutôt Massiban. Il éclata de rire, comprenant soudain. « Ne te retiens pas, il dort bien. Je t'avais promis que tu le verrais. Tu expliques maintenant les choses ?»« Vers minuit, je savais votre rendez-vous au château. À 7 heures du matin, j'étais là. Quand Massiban est passé, je n'ai eu qu'à le cueillir. Et puis, une petite piqûre. Ça y était. Dors, mon bonhomme. On va te déposer sur le talus, en plein soleil, pour n'avoir pas froid. Allons-y. Bien, parfait. À merveille. Et notre chapeau à la main. Un petit sou, s'il vous plaît. Ah, mon vieux Massiban, tu t'occupes de Lupin. » C'était vraiment d'une bouffonnerie énorme que de voir l'un en face de l'autre, les deux Massiban, l'un endormi et branlant la tête, l'autre sérieux, plein d'attentions et de respect. « Ayez pitié d'un pauvre aveugle. Tiens, Massiban, voilà 2 sous et ma carte de visite. Et maintenant, les enfants, filons en 4e vitesse. Tu entends le mécano ? Du 120 à l'heure. En voiture, Isidore. » Il y a séance plénière à l'Institut aujourd'hui. Et Massiban doit lire à 3h30 un petit mémoire sur je ne sais pas quoi. Eh bien, il le leur lira, son petit mémoire. Je vais leur servir un Massiban complet, plus vrai que le vrai, avec mes idées à moi sur les inscriptions lacustres. Pour une fois où je suis de l'Institut. Plus vite, mécano ! Nous ne faisons que du 115. T'as peur ? T'oublie donc que t'es avec Lupin. Ah, Isidore, et l'on ose dire que la vie est monotone. Mais la vie est une chose adorable, mon petit. Seulement, il faut savoir. Et moi, je sais. Si tu crois que c'était pas à crever de joie tout à l'heure au château, quand tu bavardais avec le vieux Véline, et que moi, collé contre la fenêtre, je déchirais les pages du livre historique. Et après, quand interrogeait la dame de Villemont sur l'aiguille creuse, allait-elle parler ? Oui, elle parlerait. Non, elle ne parlerait pas. Oui, non. J'en avais la chair de poule. Si elle parlait, c'était ma vie à refaire. Tout l'échafaudage détruit. Le domestique arriverait-il à temps ? Oui, non. Le voilà. Mais Beautrelet va me démasquer. Jamais, trop gourde. Si, non. Ah, voilà, ça y est. Non, ça y est pas. Si, il me reluque. Ça y est. Il va prendre son revolver. Ah, quelle volupté !
Isidore, tu parles trop. Dormons, veux-tu ? Moi, je tombe de sommeil. Bonsoir.
Beautrelet le regarda. Il semblait presque dormir déjà. Il dormait. L'automobile, lancée à travers l'espace, se ruait vers un horizon sans cesse atteint et toujours fuyant. Il n'y avait plus ni ville, ni village, ni champ, ni forêt. Rien que de l'espace dévoré, englouti. Longtemps, Beautrelet regarda son compagnon de voyage avec une curiosité ardente et aussi avec le désir de pénétrer, à travers le masque qui la couvrait, jusqu'à sa réelle physionomie. Et il songeait aux circonstances qui les enfermaient ainsi l'un près de l'autre, dans l'intimité de cette automobile. Mais après les émotions et les déceptions de cette matinée, fatigué à son tour, il s'endormit. Quand il se réveilla, Lupin lisait. Beautrelet se pencha pour voir le titre du livre. C'était « Les lettres à Lucilius » de Sénèque le philosophe.